Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Asmik, je suis arménienne, je viens d'Arménie. Je suis en France depuis 12 ans. J'ai 40 ans, j'ai une fille de 9 ans et je suis célibataire. Je suis née en Arménie dans une famille chrétienne, mais peu croyante. Dans ma propre famille, on n'a jamais parlé de Dieu comme un père, un sauveur, quelqu'un qui guérit, mais comme quelqu'un qui punit. On entendait souvent « Papy Dieu te punira si tu fais des bêtises ». J'ai découvert Dieu par ma mamie paternelle, qui me racontait les histoires de la vie et des miracles de Jésus. J'étais fascinée par ces histoires. Dans leur jardin, il y avait une chapelle. Je fréquentais très souvent dans cette chapelle et je faisais bisous dans tous les tableaux de Jésus que j'y trouvais. De mon enfance, je n'ai pas beaucoup de souvenirs agréables, à part cette chapelle et les jeux de la rue avec mes amis. Le reste, c'était extrême pauvreté, maladie, abandon, violence, incompréhension. En grandissant, presque tout est rentré dans l'ordre. J'ai vécu une adolescence très heureuse. Je continuais à garder mon relation avec Dieu à ma façon. Je ne voyais pas comme un père, mais comme un meilleur ami avec qui je parlais tout le temps et de tout. J'ai réussi mes examens de bac et je suis rentrée à l'université. Entre-temps, j'ai eu mon premier amour. J'avais des projets partir aux États-Unis. Tout était parfait, plus que parfait. Jusqu'à 2007. J'ai perdu mon amour par ma faute. Je n'ai pas réussi mon projet. En 2009, à l'âge de 22 ans, il m'est arrivé ce que je ne pourrais même pas imaginer dans mes pires cauchemars. Ma vie a fait stop instantané. Toutes mes blessures d'enfance que j'avais cachées dans mon âme plus profond sont remontées à la surface. J'étais seule à faire face à cette douleur. Mais à ce moment-là, je continuais à garder mon relation avec Dieu. C'était tendu, j'étais déçue, mais j'ai jamais douté. Je croyais à sa justice, mais ça n'allait pas assez vite. Le temps passait, ma tristesse s'est transformée en colère, la colère en vengeance, la vengeance en culpabilité. J'ai perdu toute ma famille, toutes mes amies. J'ai fait des choses honteuses, j'ai dit des choses blessantes. Je ne pouvais pas tomber plus bas. Longtemps, je suis restée seule avec ma culpabilité. Je ne trouvais pas la corde pour remonter. En 2014, Dieu m'a ouvert une porte de lumière en me donnant possibilité de quitter, cette fois-ci physiquement, mon pays de naissance, ma famille, mes entourages. Je suis arrivée à Paris en 2014 avec 45 euros dans la poche. Je ne comprenais même pas un mot, je ne connaissais personne. Au début, j'étais perdue. Certains m'ont profité de cette situation. La fin de 2014, je suis arrivée à Valence, où Dieu m'a ouvert toutes les portes de la réussite. J'ai rencontré mon futur mari, on s'est mariés, on a eu une fille, j'ai obtenu mon titre de séjour, j'ai appris la langue, j'ai commencé à travailler, j'ai réussi mon permis, acheter une maison, une voiture. Au final, en seulement 5 ans, j'ai atteint un point que j'avais jamais imaginé, même dans mes rêves plus fous. Malgré toutes ces réussites, je vivais avec un cœur brisé. Je savais que seul Jésus peut me donner la paix, la guérison, mais par où commencer? Je fréquentais l'église apostolique arménienne. C'était beau, agréable, mais je ne trouvais pas la réponse de mes questions. Maintenant, je vais vous raconter comment je suis arrivée à cette décision de me faire baptiser. En 2019, je travaillais pour une entreprise de nettoyage. J'étais missionnée temporairement travailler chez Monsieur et Madame Rousset. En très peu de temps, on a sympathisé, mais on n'avait pas gardé le contact. 2 ans plus tard, Madame Rousset m'a contactée. De nouveau, elle avait besoin de mes services. À partir de ce moment-là, on a gardé le contact et Monsieur et Madame Rousset sont devenus Brice et Mélanie. Pour l'ouverture de mon auto-entreprise, Mélanie, elle m'a donné beaucoup de conseils utiles et elle m'a aidé à trouver des clients, dont Michel et Magali, qui sont devenus des amis précieux, très précieux. En 2024, Michel et Magali m'ont invité à cette église où j'ai retrouvé Brice et Mélanie. J'ai de suite senti que c'était la maison de Dieu que je cherchais. Au début, je venais de temps en temps, après, plus en plus souvent. J'ai eu la chance d'être accompagnée par Brice, Mélanie, Michel et Magali sur le chemin de guérison. Grâce à eux et à cette église, j'ai découvert Jésus comme celui qui guérit, qui pardonne, qui sauve. Cela faisait un moment que je pensais à me faire baptiser. Mais avant de m'engager, j'attendais d'abord d'être guérie, de pouvoir pardonner, de faire la paix avec mon passé et avec moi-même. Si j'ai pris la meilleure décision de ma vie, de me faire baptiser aujourd'hui, c'est parce que enfin j'ai trouvé la paix. La paix que j'attendais depuis 17 ans. Ça s'est réalisé après avoir demandé pardon à Dieu pour tous les péchés que j'avais faits ou faisais. Par ce baptême, j'ai envie de témoigner mon amour envers Jésus. Avec Jésus, la chute n'a pas dernier mot. La grâce, oui. Par ce baptême, j'ai envie de dire, désormais, c'est avec Jésus que j'ai envie de marcher main dans la main. Ouais, en fait, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Quand j'ai dit 2 ans après, Mélanie, elle m'a contactée. Ça commence tout par ici, par ce moment-là. En fait, Mélanie, elle n'avait pas mon numéro de téléphone, je n'avais pas donné. Et je ne travaillais plus avec l'entreprise de nettoyage avec qui elle travaillait. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro de téléphone. Elle les a menacés ou elle les a, je ne sais pas. Mais déjà, d'abord, elles n'avaient pas le droit de donner numéro de téléphone de leur ancien salarié. En plus, ça ne leur arrange même pas que Mélanie travaille avec une autre entreprise, une autre personne. Du coup, elle a bien insisté pour avoir mon numéro de téléphone. Et ça s'est commencé par ici. Si elle n'avait pas à m'appeler, je pense que je ne serais pas là. Et je serais encore... Et j'ai envie aussi de dire merci à... Je pense que vous connaissez tous quand j'ai dit que les gens qui m'ont invité à cette église, bah, c'est Michel et Magali qui est assise ici. Et ça a commencé, j'ai connu l'église comme ça.
C'est tellement touchant et quand on s'arrête pour vraiment regarder quelqu'un, ça peut être... ta femme de ménage, en fait, hein, puisque Asmik, on l'a rencontrée comme ça. Mais quand dans le regard, tu vois une soif de plus et que tu peux arriver à juste à semer des belles choses, il y a tout un parcours derrière. Et merci, Asmik, pour ton courage d'avoir parlé.
Oui, en fait, comme j'ai dit, que Dieu m'a ouvert une porte de lumière et que Dieu qui m'a ouvert toutes les portes de la réussite, c'est vraiment Dieu. Vous allez peut-être penser, bah, j'ai acheté un ticket et je suis partie, comme vous pouvez acheter un ticket aller aux États-Unis. Je peux vous dire que d'Arménie venir en France, ce n'est pas si facile que ça. En fait, il fallait 4 000 euros dans un pays où SMIC est 100 euros et moi qui gagne 180 euros. Et dans 3 mois, il fallait avoir 4000 euros. Voilà, c'est que Dieu qui pourrait ouvrir ses portes, trouver l'argent, trouver les gens qui pouvaient m'aider de partir. Et pareil, en France, arriver à 40 avec 45 euros, c'est que Dieu qui peut me garder en vie.
Alors, à SMIC, on va te poser quelques questions. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ton Sauveur, qu'il est ton Seigneur?
Oui, je crois.
Est-ce que tu crois qu'il a porté à la croix tes péchés, qu'il est mort et ressuscité?
Oui, je crois.
Est-ce que tu t'engages à vivre comme disciple de Jésus, à le suivre avec fidélité tous les jours, avec l'aide du Saint-Esprit?
Oui, j'ai envie.
Alors, ainsi, par ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Je vais proposer à Lynn maintenant de nous rejoindre. Tout va bien se passer.
Alors, je vais essayer de vous raconter en peu de temps tout ce que Dieu a fait dans ma vie, tout ce qu'il continue de faire encore et qui fait que je suis arrivée ici devant vous alors que ce n'était vraiment pas prévu au départ. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai été élevée avec beaucoup d'attention par mes parents. J'ai grandi entourée de mes 3 sœurs et je suis toujours très profondément reconnaissante pour ça. J'ai eu le privilège de grandir au milieu des champs, d'entendre parler de Dieu depuis toute petite, et surtout du chemin du salut, Jésus. La communauté dans laquelle j'ai grandi, vous l'appelleriez peut-être église d'arbistes, mais pour moi, elle n'avait pas de nom. C'était juste mon monde, le seul que je connaisse. Mes parents font le choix de me baptiser quand je suis toute petite. Et puis moi, âgée d'une douzaine d'années, je décide de croire en Dieu. Parce que j'ai très peur de l'enfer. C'est pas du tout touché par l'amour de Dieu, l'amour du Père, que je fais ce choix, mais bien par peur. J'ai continué mon chemin, ado, je suis devenue jeune adulte. Et pour vivre une vie chrétienne, j'ai fait ce qui me semblait être à l'époque la foi. Et j'ai empilé ces briques les unes après les autres. Le contrôle de soi, la vigilance au péché, la séparation du monde, le jugement des autres, suivre des règles, taire mes émotions, et puis cacher mes failles, cacher mes échecs, culpabiliser, et faire plus d'efforts après, et paraître. Je rencontre Jo, on se comprend, on s'aime et on se marie. On a la joie d'accueillir 3 enfants, Amy, Maël et Noah, et le gourd des filles aussi. Et ensemble, on se questionne, parce qu'on recherche de l'authenticité, on recherche de la liberté, et on a soif d'amour divin. À 30 ans, j'ose faire le pas de remettre en question tout ce que je connais, d'accepter l'incompréhension de mes amis, de faire de la peine à ma famille, et de tourner le dos à tout ce que je connais et d'avancer vers l'inconnu. Je le vis comme un tsunami. Mon mur de briques, à l'intérieur, il tremble. On fait la connaissance d'une église évangélique, et il y a des frères et sœurs au grand cœur qui nous accueillent. Et là-bas, les briques, elles tombent les unes après les autres. Jusqu'au jour où il ne reste plus que ces questions. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Et pourquoi il s'occuperait de moi? Là, je traverse un désert terrible qui dure et à tous les niveaux. Et c'est dans la nature que le Dieu créateur, il va me parler à nouveau, par petites touches, en voyant toutes les magnifiques choses qu'il a créées, tout le soin qu'il a pris pour les infimes fleurs. Et je vais faire à nouveau ce choix de croire. Mais me voilà sur la ligne de départ d'une vie de foi. J'ai aucune idée de comment la vivre. Une vie religieuse, oui. Une vie de foi, j'en sais rien. Ouvrir la Bible, prier, des choses que j'ai fait pendant 30 ans, c'est devenu impossible. C'est lié à mon passé. Je peux pas. Alors c'est dans la nature, dans la forêt, que je vais commencer à lui parler. Tout doucement, mais loin de toute religiosité. Pendant ce temps, Dieu il s'occupe aussi de Jo, il vit des choses magnifiques. Un matin, il rentre au café connecté, et plusieurs mois après, ben, c'est toute la famille qui rentre un dimanche matin dans les locaux de l'église Connect. À ce moment-là, c'est Jo qui porte notre famille. Il lui fait prendre une nouvelle direction. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Pendant près de 9 mois, je suis venue au culte. Je me faisais aussi discrète que possible. Il y a un moment, j'étais pas loin de me commander des habits blancs, de la couleur du mur du fond, en me disant « là, je serai vraiment transparente et on me laissera tranquille ». Mais pourtant, j'y revenais parce que j'avais soif. Et c'est bien avec cette même intention que je suis allée à la conférence Cœur du Père sur le plateau, c'est-à-dire l'intention d'être invisible. Je me suis assise à l'avant-dernier rang. J'étais assoiffée. Je me suis dit, il y aura 2 gouttes pour moi. Mais là, à l'avant-dernier banc, évidemment que Dieu il m'a vue. Il m'a donné une image. J'ai mis un peu de temps à me dire que c'était moi, en fait. Et puis, quand j'ai compris que sur l'image, c'était moi, waouh, ça m'a tellement parlé. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu une expérience de lâcher prise avec lui. Et en cadeau, j'ai reçu une paix, waouh, une paix que j'avais jamais connue. J'avais l'impression de flotter, je me sentais hyper légère alors que rien n'avait changé. Et ça a duré tout le week-end. Et les moments où je me rappelle avoir dit à ma famille, « Waouh, ce que j'ai vécu, c'est génial. J'y retourne à la session d'après. Mais alors franchement, je suis déjà remplie, laisse tomber. C'est pas possible d'avoir plus. » Et là, hop, une couche de plus. Et je revenais et je disais, « Oh, mais c'est pas possible, j'ai encore ça qui s'est débloqué ou ça qui s'est révélé. » Puis je rentre chez moi et les semaines passent. Et je dis à Dieu, « Faut que tu continues à te révéler à moi. » J'ai conscience que j'ai vécu quelque chose de fort dans cette conférence qui va me porter pendant un temps. Mais je serai vite à sec. Si je ne continue pas à trouver cette source par moi-même quotidiennement, je serai à sec. Et un matin, je me réveille. Et à peine réveillée, ma première pensée, c'est « Papa Céleste, t'es là ?» C'est la première fois que j'ose l'appeler papa. Et là, il y a la même paix qui m'envahit, et puis une dose de joie en plus. Parce que je me dis, waouh, ce que je savais, je le vis là, chez moi. Juste lui et moi. Quelques jours après, c'est le Saint-Esprit qui me pousse à ouvrir ma Bible, chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps. Mais il m'y invite, il me montre même l'endroit où m'installer, donc j'y vais. Et je commence à ouvrir la Bible à Genèse 1, donc un passage après 30 ans d'église que je connais un petit peu, quoi. Je me dis là, waouh, je commence par ça. Je dis ok, par contre il faut que tu me fasses découvrir de nouvelles choses. Et là je commence à lire Genèse 1 et je me dis c'est pas possible, c'est un nouveau livre que j'ai. Mais non, c'est un chapitre qui brille devant mes yeux et mon âme, elle adore pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait dans la création, toute la minutie qu'il a eue, tout le soin. Je me dis, c'est un nouveau livre, je le lis d'une nouvelle manière. Et je vais de découverte en découverte au fil des pages et des échanges avec le Saint-Esprit. Ces paroles, elles soufflent sur mon âme un vent de liberté, de vie et de guérison. Je les note sur des petits bouts de papier, je les note, puis je les mets dans les pages de ma Bible ou d'un carnet. Mais j'ai encore soif, en fait, de ces paroles. Parce que chaque jour, j'ai un mot, un verset, une phrase. Puis après, je dois attendre le lendemain, donc je suis tellement frustrée, je me dis « waouh ». Donc je prie, je dis « je veux plus, quoi ». Mais bon, les jours passent et j'ai ma petite dose quotidienne, mais rien de plus. Et un matin, je réalise que je demande plus, mais j'ai toujours le même petit bout de papier dans la main. Et j'ai rien pour noter plus, quoi. Donc là, je dis « ok ». Et je prends une feuille à quatre, que je plie en deux quand même. Et je dis, je veux plus, je suis prête à entendre plus. Et ce jour-là, vous pensez bien que la feuille, elle était remplie. Et ma vie de foi, elle est faite de moments forts comme celui-là, mais aussi des tout petits pas, qu'on ne voit pas au début. Des défis, des temps moins faciles, des temps d'attente. Mais je peux vous dire que c'est une vie qui vaut vraiment le coup. Et un matin où je dis à Dieu, je veux vivre encore plus, quoi. J'ai découvert tellement de choses, mais il y a sûrement encore plein d'autres choses. Je dis, bon, alors c'est quoi l'étape d'après? Et il me dit, l'étape d'après, baptise-toi. Et là, je me dis, ben oui, c'est tellement évident, je veux le faire, je veux me baptiser. Bon, on ne change pas du tout au tout, donc quand il me parle de baptême, je dis, ouais, un petit coin de Drôme, j'envoie un, 3-4 personnes, c'est parfait. Mais je commence à le connaître un peu et le Saint-Esprit paraît pas hyper emballé par mon idée, quoi. Donc j'essaye une fois, deux fois, je lui donne des arguments vraiment sympas, quoi. Mais il n'y a rien. Et bon, quand je me mets à l'écouter, il me dit, ben, peut-être devant la famille de Dieu, tu vas témoigner de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il fait encore. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous, pour lui rendre gloire. Et j'espère que l'objectif, il est rempli. À lui toute la gloire.
Quand on quitte la religion et qu'on rentre dans une relation, voilà, vous avez un témoin vivant de ce que la religiosité peut amener comme chape et comme culpabilité, et voir la relation que tu as avec Jésus maintenant, c'est juste inspirant.
Alors, Lynn, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu ?
Oui, je crois.
Crois-tu qu'il est mort et ressuscité afin de prendre tes péchés pour que tu aies la vie éternelle, une vie en abondance ?
Oui, je le crois.
Veux-tu choisir Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie ?
Un grand oui.
Et choisis-tu de le laisser le Saint-Esprit conduire ta vie, marcher en nouveauté de vie par lui ?
Oui, je le veux.
Sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Oh, mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh, mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le loue.
Nicolas, si tu veux bien venir nous rejoindre.
Bonjour à tous. Donc je vais vous livrer mon témoignage. Je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans et j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Ma 33e année fut une année merveilleuse. C'est durant cette année-là que je suis né de nouveau, que j'ai voulu que Jésus soit le centre de ma vie et que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est également cette année-là que j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Mais Jésus n'est pas avec moi seulement depuis mes 33 ans. Il est avec moi depuis toujours. Car lorsque je regarde en arrière, je m'aperçois que depuis tout petit, il m'appelait déjà à lui. Tout comme il appelle chacun d'entre vous ici à lui. Je n'ai pas grandi dans la foi, et pourtant tout petit, j'étais très attiré par une Bible qui était là dans une petite bibliothèque de la maison. Il y avait pour moi quelque chose de vivant, d'inexplicable dans ce gros livre. Quelques années plus tard, en 2004, sort au cinéma La Passion du Christ de Mel Gibson. Et je me souviens qu'un jour, à cette période, je rentrais du collège à pied, j'avais 13 ans, je passe devant l'affiche du film, qui était dans un panneau publicitaire, et je m'arrête devant cette affiche, tellement que je suis saisi et touché par une émotion, par quelque chose qui me fait que j'arrête ma marche, quoi. Et c'est que 20 ans plus tard que je verrai ce film. Puis quelques années passent, et à l'âge de 18 ans, je perds mon grand-père paternel. Il meurt après un long combat face à un cancer du poumon, et c'était vraiment mon papy d'amour, avec lequel je passais des moments merveilleux, on était très complices. Et même pendant la maladie, dans des moments difficiles, on se débrouillait toujours pour rigoler ensemble, pour passer de bons moments. Et cette perte-là fut pour moi une épreuve terrible. J'étais dans une souffrance immense, et je me rappelle qu'à un moment, je suis tombé à genoux, dans les larmes et les pleurs, et pour la première fois, j'ai pleuré à Dieu, disant « Non, Dieu, je t'en supplie, ne me l'enlève pas. » Après cette dure épreuve, 5-6 mois passent. Cette épreuve est maintenant derrière moi, je suis dans mon appartement où je fais mes études, à Cannes. C'est la nuit, je dors, les lumières sont éteintes, les volets sont entièrement fermés, et je me réveille dans la nuit, j'ouvre les yeux, et je suis ébloui par une lumière blanche éclatante dans un coin de la chambre. Et dans cette lumière, je distingue très bien la silhouette d'un homme qui est vêtu d'une tunique blanche. Face à ça, je suis comme tétanisé, pétrifié, et tout ce que j'arrive à faire, c'est de me recouvrir avec ma couverture et de me répéter « qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» 40-50 secondes passent, je descends ma couverture, plus rien, même la peur s'en est allée, et je suis dans la paix et le questionnement. Qu'est-ce que je viens de vivre ? Et de ce questionnement est néanmoins, sans le savoir, une recherche. Et c'est 10 ans plus tard que j'ai rencontré ma chérie Aurélie, qui, elle, appartenait déjà au Seigneur. Et le jour de notre rencontre, c'était un samedi, elle me propose d'aller à l'église le lendemain. Elle perd pas de temps. Mais j'y suis allé avec un cœur ouvert et en recherche de ce Dieu d'amour qui est mort à la croix pour moi, pour toi. Et durant les louanges et le culte, j'ai été touché comme jamais auparavant. Des vagues de frissons, des larmes, des pleurs. Mais ce n'était pas de la tristesse. Je ressentais vraiment un amour immense. C'était l'amour de Dieu. La suite jusqu'à aujourd'hui sera un long combat intérieur entre ma chair, mon esprit. D'un côté, je voulais plus de Dieu, jusqu'à le vouloir plus que tout, présent à chaque instant, au centre de ma vie. Et de l'autre côté, l'ennemi, avec ses mensonges et ses barrières, qui a tout tenté pour m'en éloigner. Mais j'ai crié à Dieu de m'aider et de faire ce que je ne pouvais faire moi-même, par mes propres forces. Et il m'a amené à la repentance qui mène au salut. Et à partir de là, tout a changé, tout a changé. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi, j'ai vraiment vécu cette nouvelle naissance en septembre dernier, et depuis ce moment-là, je sais que je veux marcher dans tes pas, Jésus, et je désire refléter ton image et ton amour. Et oui, j'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur, car loin de toi, je ne suis qu'une âme perdue. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ton amour sans limite. Merci, Seigneur, car tu dis « Cherchez et vous trouverez », et tu tiens tes promesses, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Amen.
Alors, on va te poser quelques questions. Nicolas, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ?
Oui.
Nicolas, est-ce que tu crois que tu vas suivre Jésus tout au long de ta vie et qu'il sera le centre de ta vie ?
Oui, je le suivrai.
Nicolas, est-ce que tu crois que Jésus s'est donné sur la croix pour le pardon de tes péchés et pour que tu aies la vie éternelle?
Oui, je le crois.
Nicolas, acceptes-tu d'être guidé par le Saint-Esprit au quotidien dans ta vie et de reconnaître chaque chemin qu'il te fait prendre?
Oui.
Nicolas, sur cette confession,
de ta foi. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alléluia, Jésus est vivant, son règne n'aura jamais, jamais de fin. Son nom lui seul peut nous sauver et nous offrir la vie en abondance. Alléluia, Jésus est vivant, son règne n'aura jamais, jamais de fin. Son nom lui seul peut nous sauver et nous offrir la vie en abondance.
Wow. Mathieu, on te laisse la place maintenant pour le temps d'enseignement.
Merci à tous ceux qui s'occupent de nos enfants pour qu'ils puissent eux aussi connaître ce Jésus extraordinaire dont il vient d'être question dans les témoignages. Du coup, comme Michel vous a dit, je m'appelle Mathieu, je suis un des pasteurs, un des fondateurs de cette communauté. Mais comme je le priais ce matin quand on était ensemble, j'ai même pas fait d'études de théologie, enfin, je me suis formé sur le tard plus tard. J'étais pas destiné à forcément être devant vous, comme Lynn aussi a pu le dire dans son témoignage. Ce qui me qualifie, ce qui fait que je peux être devant vous, c'est que je suis, comme tous ceux qui ont témoigné à l'instant, un produit de l'amour de Dieu. Jésus m'a vraiment saisi et vraiment rentré dans ma vie quand j'avais 8 ans. Je me rappelle comme si c'était hier, dans une chambre à côté de Paris, avec mon papa qui a prié pour moi ce jour-là. Et comme ceux qui ont témoigné à l'instant, ma vie n'a plus jamais été la même. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais Jésus a toujours été présent. Et comme chacun de ceux qui ont choisi de le suivre ici aujourd'hui, ben, je suis devenu un de ses disciples. Et puis voilà, quelques mots dans la Bible pour étayer un peu tout ce qu'on a entendu, bien que je voudrais vraiment remercier les trois baptisés qui, je trouve, ont été très très bons dans leur témoignage. J'ai trouvé ces témoignages vraiment qui glorifiaient Dieu, qui montraient tellement de belles choses. Au bout d'un moment, je me disais, franchement, ça sert à rien que je prenne la parole. Ils ont largement fait le boulot très très bien. Et du coup, je veux aussi en profiter pour remercier Patrick et Catherine pour si on peut les applaudir, pour ce travail merveilleux qu'ils ont fait avec eux. Remercier toutes les personnes qui ont été citées aussi dans ces témoignages, parce que ben voilà, on est une famille. Et du coup, j'espère pas trop vous saouler avec ça, mais je vais relire Éphésiens 2 une fois de plus. À chaque fois que je vous parle de ce passage, c'est un de mes passages préférés de la Bible, mais je le trouvais important pour ce matin. Donc si vous avez vos Bibles, papier ou numérique avec vous, vous pouvez suivre avec moi dans la lettre de Paul aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, juste quelques versets. Donc, vous allez reconnaître ce qui a été dit dans les témoignages. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans des hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, chacun de nous qui connaissons Jésus, nous aussi nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. » Je m'arrête là et puis je vais lire quelque chose d'un peu plus joyeux dans un instant. Mais c'est important de s'arrêter là aussi, de réaliser que sans Dieu, on est mort spirituellement. La parole de Dieu parfois paraît un peu crue, mais c'est important de réaliser la réalité. Ce monde fait tout pour nous endormir, ce monde fait tout pour nous anesthésier. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix qui est sorti il y a des années. Je me rappelle, on était avec Olivier et un autre ami quand on a été le voir ensemble au cinéma. Et quand je suis ressorti, je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est vrai. En fait, dans ce film, vous voyez des champs, au lieu que ce soit des céréales ou quoi, c'était des champs d'êtres humains en train d'être nourris avec le cerveau branché, en train d'être nourris d'images factices. C'est comme si la vie qu'on vit devant nos yeux n'est pas réelle, que c'est quelque chose qu'on nous injecte dans le cerveau. Et on est sorti, je me rappelle, je suis sorti de cette séance de cinéma en me disant, mais si ça se trouve, c'est vrai. Et plus les années ont passé, plus je me suis rendu compte que c'était vrai, que l'ennemi de nos âmes nous présente une fausse réalité devant nos yeux, nous fait croire que c'est lui qui a le meilleur pour nous. Il a un très 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 bon service marketing. Les clubs, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais plus quand j'étais plus jeune, les boîtes de nuit, les substances diverses et variées qui nous proposent plein d'addictions différentes, plein de produits, plein de relations malsaines, il en a été question dans les témoignages. Tout ça pour nous conduire à la perdition. Tout ça, lui qui est le premier des orphelins, lui qui a été chassé du jardin d'Éden, du ciel, tout ça pour nous conduire avec lui à la perdition pour l'éternité. Et la mort est bien réelle. Nicolas y a fait allusion avec la perte de son grand-père qu'il a tant chagriné. Et la mort est bien réelle. Beaucoup d'entre nous expérimentons la mort. On expérimente tous la mort de diverses manières. Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans la solitude, ça peut être dans plein de choses différentes. La mort est bien réelle. Et ça me rappelle une histoire. J'aime bien raconter des histoires de ma vie aux enfants. Est-ce que les enfants voulaient que je vous raconte encore une histoire qui m'est arrivée ? Une fois, on était en Italie, écoutez-moi bien, hein, on était en Italie pour le mariage de ma belle-sœur, la sœur d'Emmanuel. Et c'était absolument merveilleux. C'était vers Naples, le sud de l'Italie. C'était la côte amalfitaine, tout ce qu'on peut imaginer de plus paradisiaque, en plus avec la nourriture italienne, donc vraiment le top du top. Et on vivait ces moments de mariage, de réunion familiale, c'était magnifique. Et notre cousin, mon cousin par alliance, me propose d'aller nager, j'aime beaucoup nager, d'aller nager en mer avec masque et tuba. Et il m'a dit, mais par là, il y a des grottes sous-marines, ça peut être sympa si ça te dit qu'on aille voir, comme on nageait bien tous les deux. Et je lui dis, ah ben génial. Mais bon, j'avais une petite appréhension quand même en moi. Et du coup, à un moment, on arrive près de rochers et du coup, on commence à nager sous l'eau. Et vous savez, quand tu nages sous l'eau et que d'un coup, t'as les rochers, c'est tout sombre et tu vois un rayon de lumière passer au travers des rochers, ça montre que ben voilà, la lumière passe, ça veut dire qu'il y a un passage. Et il me dit, ah tiens, il va regarder une première fois, il me dit, ben, ça te dit qu'on descende sous l'eau comme ça et qu'on passe par le trou pour remonter, pour essayer de trouver le remonter de l'autre côté. Moi, je commence à flipper un peu plus, mais je lui dis, ben oui, ok, super. J'avais beau être bon nageur, ça commençait à m'effrayer un peu. Et il me dit, allez, ben, j'y vais le premier, suis-moi et tout, ok, super. À ce moment-là, je suis déjà papa de 4 enfants, donc lui avait un peu moins d'enfants, peut-être c'est pour ça qu'il avait un peu moins peur. Et il y va et je le suis. Et au bout d'un moment, je me sens pas à l'aise, peut-être ça fait un moment que j'avais pas autant nagé, je commençais à être fatigué, donc je fais demi-tour. Et je remonte à la surface et là je commence à paniquer parce que je ne sais pas ce que lui est devenu. Et l'îlot rocheux faisait un petit éperon comme ça, donc je me dis ben, je vais vite nager de l'autre côté pour aller le retrouver. Et du coup je me dépêche, là il y a une houle assez impressionnante et je nage et je vais de l'autre côté. Et là, terreur, effroi, pas de Michael. Et là j'ai une panique qui commence à rentrer en moi. Il se trouve que je m'étais formé, j'étais maître nageur dans le passé, donc je savais tout bien faire ce qu'il fallait dans ces cas-là, sauf que là, plus de cousins, plus personne. Et il y avait un bateau, il y avait des touristes qui étaient là sur un bateau, et je me dis, mais quelle horreur, je commence à hurler, leur dire, est-ce que vous avez vu quelqu'un ? Je commence à hurler tout en me maintenant à la surface, toujours pas de Michael. Et je prie, je dis, mais Seigneur, mais quelle horreur, quoi, ça peut pas, on est là en Italie en train de faire la fête pour le mariage de la belle-sœur, ça peut pas, il peut pas se passer ça, c'est pas possible. Et pendant un instant, j'ai vraiment cru, enfin, de longs instants, j'ai vraiment cru que le pire était arrivé. Et je repars à la nage et je reviens au point de départ, et là, dénouement heureux, ouf, merci Seigneur, il était là. Et il était en train de nager, et en fait, et donc moi, je lui crie un peu dessus, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu peur, j'ai cru que tu t'étais noyé, quoi. Et en fait, il m'explique que lui était en fait passé assez facilement en dessous, remonté, et ne me voyant pas, et bien, il avait choisi de refaire le chemin inverse pour revenir au point de départ. Donc énorme soulagement. Donc, mais bon, j'en menais vraiment par large. J'ai vraiment cru qu'il était mort pendant un instant. On a renagé ensemble vers nos femmes et nos familles et j'ai été soulagé. Et puis voilà, mais ça m'a vraiment... Vous savez, des fois, il y a des événements comme ça, ça se finit bien, mais tu restes quand même ébranlé, quoi. Et tout ça, cette image pour vous dire que la mort est bien réelle et que la mort sans Dieu est bien réelle et que le paradis et l'enfer existent bien et que comme les trois merveilleuses personnes qui ont témoigné à l'instant nous l'ont dit, il y a un jour où elles ont fait le choix de suivre Jésus, le choix de suivre celui qui nous épargne cette mort, qui nous permet d'être unis à lui pour vivre une vie éternelle, merveilleuse, merveilleuse avec lui. Et du coup, il y a peut-être, comme je le disais, des effets de la mort déjà bien présentes dans ta vie. Il y a Jean-Baptiste, avant même que Jésus démarre son ministère public, son cousin Jean-Baptiste commence déjà à baptiser les gens. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche ». Et Nicolas a fait l'allusion, merci Nicolas, à la repentance, ce mot tellement important. Ce mot qu'on comprend souvent très très mal, on prend le mot repentance comme quelque chose, comme si on devait s'auto-flageller pour les erreurs qu'on fait. Il n'est pas du tout question. Le pardon, ce n'est même pas la chose la plus importante de la repentance. Repentance veut dire changer. Repentance veut dire qu'il y a un avant et un après. Ça veut dire qu'avant, je suivais mes désirs personnels, j'étais conduit par une force mauvaise. Mais après, je change, je me tourne et je choisis de suivre Jésus. C'est ça la repentance. Et bien sûr, ça implique de demander pardon pour nos fautes. Mais il dit, repentez-vous, changez, le royaume des cieux est proche. Et proche, ce n'est pas une notion forcément temporelle. C'est aussi ça. Un jour, Dieu sera avec nous, on sera avec lui et toute chose deviendra parfaite. Mais c'est aussi une notion de dire que le royaume de Dieu est accessible. Comme la mort et ses effets sont déjà présents dans le monde, grâce à Jésus, la vie, grâce à Jésus, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? C'est la joie, c'est tout ce qui a été dit ce matin, la paix, l'amour, la justice, la vérité. Toutes ces choses-là sont accessibles dès aujourd'hui si tu choisis Jésus. Et peut-être que toi, tu vois beaucoup d'effets de la mort dans ta vie. Peut-être que tu te sens seul. Je sais que la solitude, c'est vraiment un des pires maux de notre société aujourd'hui. On a beau être ultra connecté avec plein d'outils numériques, la solitude n'a jamais été aussi grande parce qu'on se retrouve chacun de notre côté, coupés les uns des autres, alors qu'on croit être dans des relations qui sont au final tellement superficielles. Peut-être que tu combles ce manque en toi, ce manque d'amour en toi par des substances. Ça peut être la nourriture, ça peut être des drogues, je ne vais pas toutes les citer, vous savez tout ce qui existe sur le marché. Peut-être que c'est dans des relations malsaines, peut-être que tu te dis « mais si je n'avais pas cette relation dans ma vie, je ne pourrais pas vivre ». Mais sache-le, il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide en toi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, son Fils, mourir sur la croix, comme cette croix que vous voyez là. Il est mort sur une croix comme celle-là. Mais comme vous voyez là, cette croix est vide parce que le troisième jour, on l'a fêté il n'y a pas très longtemps, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a dit « Tout est accompli ». Lui, le seul Fils de Dieu, innocent de tout péché, a choisi de donner sa vie en sacrifice. Merci Nicolas aussi. Moi, la passion du Christ, je sais, certains disent « Oui, c'est très violent ». Les Romains, l'Empire romain était extrêmement violent. La réalité, c'est que Jésus a dû souffrir cette violence infâme pour que toi et moi, on puisse être libérés de la mort. Et grâce à sa résurrection, on peut nous aussi ressusciter et vivre une nouvelle vie. Et je continue le passage que j'ai laissé en plan il y a quelques instants. « Mais Dieu, qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. » Merci Jésus. Il nous a donné cette nouvelle vie. Il nous a offert cette nouvelle vie gratuitement. La grâce, ça veut dire que c'est gratuit pour nous, mais ce n'était pas gratuit pour lui. Lui a dû payer le prix le plus fort. Ce n'est même pas les clous, ce n'est même pas l'étouffement, l'agonie, le pire. C'est qu'il a dû payer, porter la lourdeur de mon péché et du tien. Le péché de l'humanité passée, présente et future entière. Seul Dieu pouvait faire cela, et il l'a fait. Et c'est tellement beau, ça a été tellement bien dépeint aussi dans les témoignages, de lire qu'il nous a ressuscités les uns et les autres avec le Christ. C'est ensemble qu'il nous a fait ressusciter, c'est écrit juste après. Et merci, c'était tellement beau de voir l'importance des uns et des autres dans le témoignage de ceux qui se sont avancés. En fait, pareil, dans notre société aujourd'hui, on pourrait nous faire croire qu'on se suffit à nous-mêmes, qu'on peut un peu contrôler tout ce qui nous arrive, qu'on peut choisir ta faim, tu commandes à manger, tu as envie de regarder quelque chose. Avant, il fallait attendre, il fallait aller au cinéma. Aujourd'hui, tu as accès à l'infinité des films. Tout ce que tu veux est disponible en l'instant, en France du moins, en 2026, plus ou moins. C'est pas partout pareil dans le monde. Et ça, ça nous aveugle. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de Dieu et qu'on a besoin les uns des autres. S'il n'y avait pas ce coup de fil de Mélanie qui s'arrache pour avoir ce numéro, on ne sait pas où en serait Asmik aujourd'hui. Chacun de nous, il y a quelqu'un, et souvent il y a aussi les grands-parents, et je veux honorer aussi les familles là qui prient pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Les amis, il faut continuer, il faut persévérer. Parce qu'un jour ou l'autre, la lumière vient et tout change. Et Dieu nous utilise les uns pour les autres. Et je voulais encore lire ce verset qui suit un peu plus loin, au verset 8. « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez pu accomplir. » Merci Lynn, tu l'as tellement bien expliqué. On essaye toujours, on se croit, on a une part de Dieu en nous, Dieu nous a créé à son image, et on croit qu'on peut mériter son amour en performant. Mais en fait, il n'y a rien qu'on peut faire qui peut faire que Dieu nous aime plus. C'est un peu comme chacun de nous avec nos enfants. Nos enfants font des choses géniales, nos enfants se trompent aussi, font des erreurs, mais ça ne fait pas varier notre amour pour eux. Et bien c'est pareil pour le Papa du ciel, notre Papa dans le ciel. Rien de ce qu'on fait, tous les efforts qu'on peut essayer, ça ne sert à rien, on se fatigue pour rien. Il nous aime, il nous a tant aimés. Il a envoyé Jésus pour cela, pour chacun de nous. Et personne n'a donc raison de se vanter. Il y a vraiment ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Voilà. Car par notre union avec Jésus-Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance avant que nous les accomplissions. Il y a vraiment moi, ce que j'aime aussi dans le baptême, c'est qu'il y a cette soumission. On se fait baptiser par quelqu'un d'autre. On dépend de quelqu'un d'autre qui nous rentre dans cette eau dont j'ai parlé au début, qui représente la mort. Et quand on sort la tête de l'eau, il y a cette respiration, il y a cette vie nouvelle qui est commencée avec Jésus. Et comme je viens de le dire, Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire que, un peu comme Lynn, j'ai bien aimé comme elle a expliqué... Elle voulait se faire baptiser d'une certaine manière et en fait le Saint-Esprit lui a révélé que c'était d'une autre qu'elle devait le faire. Dieu, il a préparé d'avance des choses pour toi afin que tu les pratiques, afin que tu marches dedans. Ça veut dire que le baptême, c'est pas une fin en soi, c'est le démarrage d'une nouvelle vie merveilleuse. Ça veut pas dire que tout sera toujours facile, mais ça veut dire qu'il est toujours avec toi. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que Dieu, il a une mission pour toi. Il a une mission pour toi qu'il n'y a que toi qui peux réaliser. Et il t'a créé, il t'a donné les dons, il t'a donné les talents, il t'a donné un caractère particulier, il t'a donné des goûts, il t'a donné des émotions. Tout ce qui constitue qui tu es, Dieu l'a tissé ensemble pour que tu puisses accomplir cette mission merveilleuse qu'il a prévue pour toi et qui va te permettre de toucher plein d'autres personnes, comme ceux qui ont témoigné à l'instant. Eh bien, nous ont touchés, nous ont vraiment inspirés. Comme la Bible le dit, Dieu nous donne la vie et il nous la donne en abondance. En abondance. C'est pour ça qu'on est autant remué quand on voit ces parcours de vie. Et si tu es dans cette salle et que tu sens le Saint-Esprit te parler à l'intérieur, peut-être que tu as senti une chaleur, tu as senti un amour, tu as senti quelque chose qui te donnait envie, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est pas un hasard si tu es là ce matin. Et j'ai envie de te dire aussi, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sors de cette salle sans avoir rien fait, tu vas te dire, ah, j'ai passé un beau moment. Et peut-être tu vas reprendre ta vie, et ces choses-là vont s'effacer, s'évanouir petit à petit. Mais tu as aussi le choix ce matin de dire peut-être que ce que ces personnes ont témoigné, eh ben, c'est juste, c'est vrai, et j'ai envie d'en savoir plus. Et si tu es là, c'est que tu es venu voir quelqu'un qui s'est fait baptiser, eh ben, vraiment, je t'invite à aller voir cette personne et juste à demander d'en savoir plus. Juste demander peut-être de passer un temps pour avoir des informations complémentaires, pour avoir un partage complémentaire. Parce que Dieu veut aussi toucher ton cœur, Dieu veut aussi transformer ta vie. Il a des projets merveilleux pour toi. Amen. Alors juste avant de prier pour les baptisés, je vais vous demander de fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, Papa dans le ciel, Saint-Esprit, merci notre Dieu, tu es cette famille céleste magnifique, trois en un. Merci parce que tu veux ajouter chacun de nous à ta famille merveilleuse. Merci parce que quand tu es dans notre vie, on n'est plus jamais seul. Seigneur, moi je te prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin et qui se sentent peut-être seules. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sentent égarées, qui ne savent pas où aller, comment avancer. Seigneur, merci parce que tu veux les accueillir aujourd'hui. Tu veux que chacune de ces personnes puisse rentrer à la maison, ce foyer qui leur a été préparé. Tu dis, Seigneur, que tu nous as préparé une place. Il y a une place où il y a notre nom qui est prévu pour chacun de nous. Seigneur, qu'aucun de tes enfants qui est dans cette pièce ce matin ne rate cette place. Parle encore au cœur, touche les cœurs, Saint-Esprit, ce matin. Donne-nous le courage de répondre. Donne-nous le courage de dire oui. Merci pour ton grand amour, Papa. Au nom de Jésus. Amen.